M. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM saison 7 de Radio Évasion sur le 100.4 FM et aussi sur internet à radioévasion.net pour l'éternité. Si la saison 7 de votre quotidienne préférée arrive bientôt à son terme, eh bien celle de l'été, elle, commence tout juste. Le soleil est de retour et frappe fort. On est tous contents d'avoir planté nos tomates et nos courgettes et notre petite mare attendait notre retour. Effectivement, avec Anouk Bonjean, animatrice environnementale à Haute-Rivière de Bretagne, nous avions décidé de vous emmener observer une mare à chaque saison. Et c'est donc le début de l'été, il est temps de retrouver Anouk en planque derrière son buisson. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Bon alors on est pas mal là à côté de notre petite mare là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé au printemps dans cet écosystème ?
Oui, alors au printemps, la mare s'est remplie d'eau. Elle était pleine avec les pluies hivernales et c'était le début de la croissance des plantes. Donc les graines ont germé, les plantes ont commencé à pousser. Et puis, c'était le début de la reproduction. Donc, on avait des œufs et on avait des têtards. Le début des têtards, quoi. Voilà.
Tout début des têtards, oui. Alors, justement, on parlait des végétaux. Alors, quels sont les végétaux qu'on peut observer ? Alors, lesquels sont toujours là, sont encore persistants ? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme nouveaux végétaux ?
Alors, on continue d'observer les joncs, on continue d'observer les typhas, on continue d'observer qu'est-ce qu'on va continuer d'observer ? Toutes ces plantes un peu rigides, là, par exemple le carex. Et puis maintenant, va arriver la menthe aquatique, le potamo, la renoncule flammula. On va pouvoir observer aussi...
La menthe aquatique, elle se mange ?
Oui, on peut la manger, bien sûr.
Ça ressemble à une menthe, on peut facilement l'identifier, j'imagine ?
Oui, c'est, on la reconnaît tout de suite.
On la sent, j'imagine qu'en frottant ses doigts contre les feuilles, on arrive à sentir un petit peu le de la menthe.
Après, je trouve l'odeur, elle est peut-être un peu moins subtile que d'autres menthes. Il y en a plein de sortes, des menthes, et oui. Je trouve que la menthe aquatique, elle est peut-être un peu moins subtile. Mais ça, c'est des questions de goût personnel, après, je sais pas.
D'accord, mais on peut l'utiliser pour faire, faire plein de choses. On peut la faire sécher pour faire des tisanes et tout ça.
Tout à fait.
C'est très bon pour la santé, on en profitera. Alors, on observe beaucoup de plantes en ce moment. Effectivement, même dans les jardins, il y en a une, moi, qui m'enquiquine un peu. Dans mon jardin, c'est le liseron. Et on dit toujours que c'est une mauvaise herbe, que c'est super envahissant. Et j'ai presque envie de dire qu'elle est invasive. Alors, j'ai plusieurs questions du coup. Alors, qu'est-ce qu'une plante invasive et est-ce que le liseron en est une ?
Alors, une plante invasive est à différencier d'une plante envahissante. Donc, le liseron est une plante envahissante, mais il n'est pas invasif.
Okay.
Alors, la différence, c'est qu'une plante invasive, elle a été ramenée artificiellement ici, soit pour décorer un jardin, soit parce que les graines ont voyagé dans un pot de fleurs ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup d'échanges internationaux liés à notre commerce, à notre trafic, quoi. Et cette plante-là, elle est déréglée. Elle est complètement déréglée, elle est sous un autre climat, elle n'a pas de prédateurs, enfin, où il n'y a pas un herbivore qui va la consommer. Et donc, elle se reproduit plus que deux raisons. Donc, on a par exemple la renouée du Japon, la balsamine de l'Himalaya, on a la vergerette du Canada, on a plein, il y a Myriophile du Brésil, voilà.
C'est marrant parce que c'est souvent des espèces qui, alors c'est peut-être une idée reçue, mais qui viennent d'Asie, qui sont un petit peu problématiques. Je pense à, vous venez de dénoncer pas mal de plantes qui viennent du Japon, de Chine, tout ça, de l'Himalaya. Donc on est vraiment dans l'Asie, mais il y a aussi le frelon.
C'est marrant parce qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps et c'est vrai que je saurais pas vraiment répondre à cette question et si ça se trouve il y a des géographes qui travaillent là-dessus parce que peut-être que ça illustre nos nos commerces internationaux, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Sur la quantité de plantes invasives, la provenance, c'est vrai que je ne sais pas. D'autant plus que les plantes invasives, elles peuvent rester un long moment dans nos écosystèmes sans exploser, en étant là, comme ça, et en végétant, tranquille.
Et combien de temps ça peut végéter ?
Eh ben, 3, 4 ans, 5
ans.
Ah,
quand même ?
Ouais, ouais, ça peut la renouée du Japon. Elle a été là des dizaines et des dizaines d'années, en fait. Et puis, une légende raconte, ce sera vérifié, mais une légende raconte qu'elle a explosé au moment l'arrivée des moteurs d'essence avec le plomb dedans, en fait. Et comme les sols sont contaminés au plomb, elle a profité.
Enfin, ah bon ?
Ouais, ça lui serait favorable. Alors, ça a vérifié. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu ça. Donc, tout ça, c'est une plante, elle attend les conditions favorables. Le liseron de ton jardin, il attend une condition favorable pour germer. Et pourquoi oui. Là, il y en a beaucoup ? T'as peut-être passé un coup de motoculteur, peut-être, non ?
Eh bien, même pas.
Non ?
Non, par contre.
La terre est retournée un peu ?
Non, même pas. Enfin, si c'est retourné, ce serait juste à la limite avec une petite pelle pour planter ou alors gratter pour enlever ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou qui pourraient, à mon sens, pourraient étouffer certaines plantes que je souhaiterais voir un petit peu grandir, comme des rosiers, par exemple. Donc j'ai gratté, j'ai mis un peu d'engrais, j'ai mis un peu de compost et tout ça. Est-ce que...
Ouais, ouais, je pense que ça vient de cette perturbation-là, effectivement, ouais. Mais c'est pas une plante, c'est juste le temps qu'un nouvel équilibre se refasse, en fait. Le liseron, il est là quand il y a un déséquilibre, en fait. Donc
Mais c'est pas grave.
Non,
il est gentil.
Oui, tu peux même le gérer en installant un petit truc pour qu'il grimpe dessus, et puis comme ça, il n'étouffera pas, il grimpera vers le haut, puis voilà. Ça peut aussi être ça, il fait des belles fleurs, hein, c'est des jolies fleurs blanches. Ouais. Et
général...
il ne germe pas s'il n'a pas les conditions réunies. Et après, il y a un très bon livre sur les plantes bio-indicatrices, il peut aussi te donner plein d'éléments à comprendre sur la nature de la terre, du sol, de ton jardin... Ça peut être aussi intéressant de l'utiliser pour avoir des informations sur ton jardin, quoi.
D'accord. Bah, merci beaucoup pour les conseils. Est-ce qu'on a donc du coup des plantes invasives qui sont spécifiques à ce biome qu'est la mare ?
Ah oui, bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a la myriophylle du Brésil, qui est une très 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 belle plante et qui est une belle filtratrice aussi. Enfin, elle filtre très bien, elle a un joli vert, donc les propriétaires de bassins l'installent facilement dans le bassin parce que elle est vraiment jolie et puis elle permet d'enlever ce qu'on appelle les algues filamenteuses, qui sont pas vraiment des algues en fait, mais on en a parlé dans l'ancienne émission, enfin l'émission précédente. On a la jussie, qui est une plante aussi très 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 belle avec des fleurs jaunes. Je ne sais plus d'où elle vient, mais je me demande si ça ne vient pas du Brésil.
C'est des grandes plantes
ou c'est celle-ci, oui, elle est assez belle. En fait, elle fait des tapis, donc ça prend vite beaucoup de place. Mais la myriophylle du Brésil aussi, d'ailleurs,
Alors, tes tapis comme quoi ? Comme la lys odorante, par exemple ? Des espèces de tout petits buissons ras du sol, une vingtaine de centimètres avec plein de petites fleurs ?
Oui, elle tapisse, oui, voilà, c'est ça. Ouais, elle tapisse avec des rhizomes, en fait.
Avec des rhizomes, oui.
Donc c'est la même, manière de faire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur les berges, mais plutôt des rivières. Là, on a la balsamine de l'Himalaya. Et après, on m'en rapporte un peu parce que nous, à Oui Rivière, on a les refuges grenouilles. Et moi, je suis la coordinatrice des refuges grenouilles. Donc c'est tous les propriétaires de bassins qui font de la place à la faune et la flore sauvage. Et je réponds à toutes leurs questions. On échange entre propriétaires de mares, enfin gestionnaires de mares, quoi, plus précisément. Et j'ai quelques plantes problématiques qui me sont rapportées par des adhérents, quoi. Qui me donnent des noms de plantes. Alors là, je ne les ai pas en tête, mais et donc je repasse après l'information. Mais il y en a... en fait, les plantes vendues en jardinerie, il faut souvent se méfier, quoi.
Comment on fait pour savoir les bonnes plantes à mettre ou... Parce qu'eux, ils sont bien gentils, ils nous expliquent que les plantes, elles sont parfaitement acclimatées, qu'il n'y a aucun problème pour les mettre, mais on ne nous explique pas forcément que...
Non, mais c'est vrai, en plus, elles sont acclimatées, il n'y a pas de problème. Non, le problème, c'est les graines qu'elles peuvent avoir dans le pot, et puis c'est que la plante, elle peut exploser, hein, comme je disais, et puis envahir complètement le bassin. Le mieux, c'est d'aller dans un environnement, c'est d'aller dans la nature, en fait. et de prélever des plantes sauvages, c'est ça le mieux. Ou alors un peu de boue d'une autre mare pour ensemencer, quoi. Parce qu'il y a des milliards de graines, en fait, dans la vase, dans la boue, et si les conditions sont réunies, elles germent. Après, on peut aussi envoyer un message à Rivière de Bretagne, et puis nous, on dit oui ou non. Enfin, on peut aussi faire comme ça, hein. Mais quand même, globalement, tout ce qui est ornemental, si on veut privilégier la biodiversité locale, ça vaut mieux se méfier.
D'accord, donc on n'a pas le droit de toucher aux grenouilles, par contre, on a le droit de prélever
oui.
des plantes.
Ouais.
Il y en a qui sont protégées, il y a des plantes qu'on n'a pas le droit de toucher, qui sont vraiment...
Oui, il y en a, mais dans la mare,
non.
Pas que je sache. Ouais.
Alors on a parlé un petit peu des grenouilles, elles sont devenues quoi maintenant, nos petites grenouilles?
Alors les grenouilles vertes sont restées dans la mare. Les grenouilles rousses, agiles, tout ça, bon, bah, elles étaient là cet hiver. Elles ne sont même pas vraiment dans les mares, elles sont plutôt dans les flaques. Les tritons sont encore dans la mare aussi. Ils ont fait leur reproduction en avril, donc ils sont toujours là. Et là, la mare est peuplée de plein de petits œufs. Non, pas du tout. La mare, elle est pleine de têtards, là. Voilà. Et donc là, il y a la transformation des têtards en adultes qui suit son cours et qui prendra fin à la fin de l'été.
Et on commence aussi à percevoir deux espèces auxquelles on va... Enfin, des insectes et deux espèces en particulier, on va faire un petit focus là-dessus. C'est sur les libellules et les moustiques. Alors, du coup, pareil, au printemps, j'imagine qu'il y avait des œufs de moustiques et de libellules.
Alors non, pas du tout.
Pas du tout.
Enfin, si, les œufs de libellule, je vais parler du moustique parce que c'est un peu... J'en parle juste après parce que c'est un truc sur lequel c'est important de déconstruire certaines idées reçues. En tout cas, au niveau des libellules, les larves sont dans l'eau plusieurs années. 3, 4, 5, 6 ans. Ça dépend de la température de l'eau, en fait. Donc, les œufs sont déposés pendant l'été et à la fin de l'été, début d'automne même. Et les libellules, les larves de libellules grandissent sous l'eau. Et elles vont rester un certain nombre d'années, quoi, avant de monter sur une plante aquatique et de faire la métamorphose à ce moment-là.
Pourquoi ? Parce qu'elles attendent un moment précis ou parce que c'est très long à se développer ?
Bah, les deux.
Les deux.
Ouais. Il y a besoin d'un temps très ensoleillé, sans aucun vent pour sortir, mais aussi les mues progressives. Ça prend du temps.
Ah, ça mue une libellule ?
Ouais, c'est tous les insectes. Hein,
mue. Ah, d'accord.
Ouais.
J'ignorais ça.
Ouais. Donc les larves muent, et puis après, il y a la dernière mue, la métamorphose, ça c'est la mue finale, quoi.
C'est grand comment une larve de libellule ?
Eh ben, les libellules vraies, en fait, il y a plusieurs tailles en fonction des espèces, mais la libellule vraie, elle peut faire jusqu'à 3 cm.
C'est son nom, la libellule vraie ?
Non, c'est une des. En fait, dans la libellule, il y a deux familles. Il y a les odonates. Les libellules sont des odonates. Et il y a deux familles parmi les odonates, les zygoptères. Donc ça, c'est les demoiselles, les agrions, c'est des petites libellules. Et les anisoptères sont des libellules où les ailes se posent à plat sur leur dos. On a des un peu plus massives, quoi. Voilà. Et quand je dis des libellules vraies, ça veut dire que ce n'est pas des demoiselles, ça veut dire que c'est des anisoptères. Mais là, j'ai perdu tous les auditeurs, je pense.
Non, pas du tout. Non, il suffit de dire que non, il y en a qui sont beaucoup plus grosses.
C'est pas si simple parce qu'il y a des anisoptères qui sont assez petites et puis des zygoptères qui sont assez grosses, quoi. Ah. Mais le corps est fin et puis les ailes se superposent au repos.
Voilà, c'est le seul moyen de vraiment les distinguer.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
C'est quand elles sont au repos. Pourquoi d'ailleurs, il y en a qui... Pourquoi elles ont les ailes plutôt ouvertes pour une espèce et plutôt fermées pour l'autre?
Les anisoptères, les ailes ne se superposent pas. Elles n'ont pas la même forme, en fait, les quatre ailes. Donc, elles les posent à plat. Par contre, les zygoptères, là, les ailes se superposent. Elles sont toutes identiques. Et donc, c'est une question de muscle, je pense. Enfin, pas de muscle, mais d'articulation. Voilà.
Alors, du coup, ça mange quoi, une libellule?
Des insectes, beaucoup.
Pourquoi comme insectes?
Elles ont des régimes alimentaires un peu différents selon qu'elles soient sous l'eau ou en dehors de l'eau. Si elles sont larves, là, elles vont manger des vers de vase. Elles peuvent manger des petits poissons, des petits têtards aussi, hein, parce qu'elles sont assez grosses, donc tout dépend du stade de développement. Elles peuvent manger tout un tas de larves, d'insectes qui sont vraiment sous l'eau. Et alors là, il y a pléthore d'espèces, hein, il y en a vraiment beaucoup. Et puis en dehors, quand elles sont adultes, là, elles vont manger des moustiques, des petites mouchettes, elles vont manger... C'est vraiment des prédatrices, donc elles chassent en vol. Et elles attrapent globalement ce qu'ils volent, quoi.
Ah oui, donc ils sont dans le contexte de la mare, c'est quand même un insecte qui est assez haut placé dans la chaîne alimentaire.
Oui, c'est un prédateur. Et j'en viens du coup à mon moustique, parce oui. qu'il y a quand même une idée à déconstruire, c'est que les mares attirent les moustiques. Alors, le truc, c'est que dans les mares, les moustiques, ils ne vivent pas très longtemps. Parce que dans une mare où il y a un bon équilibre, donc pas une mare toute neuve évidemment, mais une mare qui a quelques mois déjà, eh bien, le moustique se fait manger. Parce que lui, il n'a aucun moyen de défense et il est tout en bas de la chaîne alimentaire. Enfin, il est tout au début de la chaîne alimentaire. Donc, il ne devient pas adulte, en fait. Et le moustique adulte se fait chasser bien souvent par les libellules, les araignées, il se fait chasser par tous ces prédateurs-là, en fait. Quoi.
Les grenouilles, les tritons, enfin, les
oui,
tout ça.
Oui, tout à fait. Ouais, tous les amphibiens aussi. Ouais.
Et pas les poissons, parce qu'il n'y en a pas normalement dans une mare.
Normalement, il n'y a pas de poissons dans une mare.
D'accord.
Et donc. J'en viens, parce que là, sur Brest, en ce moment, on voit des témoignages sur le moustique tigre qui est arrivé en Finistère. Une espèce invasive, donc, du coup, qui a bien été ramenée d'un autre pays.
Et qui vient aussi d'Asie, non ?
Alors, pour moi, lui, il vient des îles. Des îles, quoi, genre la Guadeloupe ou je sais plus.
D'accord. Bref.
Mais non, mais je suis pas sûre du tout.
Moi non plus.
mais en tout cas, il a bien été ramené d'ailleurs. Donc, il est invasif, il n'est pas envahissant. Et il s'adapte très très bien ici, il est très heureux ici. Et donc, qu'est-ce qui va l'attirer ? C'est tous les petits endroits où il ne peut pas y avoir d'autres animaux que lui. Donc, le petit niveau d'eau que vous laissez dans votre arrosoir, parce que vous ne l'avez pas vidé, les regards d'évacuation, l'eau qui va stagner dans la gouttière, les bâches qui sont mal repliées, qui forment des petites piscines,
un seau d'eau,
les jouets du gosse qui n'ont pas été rangés. Voilà. Ça, c'est des nids à moustiques. Voilà. Et donc là, si vous ne voulez pas de moustique, c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir, quoi. Alors le moustique tigre, comment on le reconnaît ? Déjà, il ne fait pas de bruit. Ensuite, il vole le jour, il ne viendra pas vous piquer la nuit. Et il est tout petit. Et il est zébré noir et blanc.
Mais alors, il est petit, mais on arrive quand même à distinguer...
Oui, on le voit quand même, hein, mais il est vraiment tout petit, quoi.
D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à l'autre ?
Aux autres, il y a plein d'espèces. En fait, il transmet des maladies, quoi.
Alors, les autres, non ?
Non, ici, il n'y a pas de maladie.
Et on sait pourquoi, lui, il véhicule plus les maladies que les autres ?
Il doit y avoir une explication, mais je ne l'ai pas.
Vous ne l'avez pas. Alors, est-ce qu'ils se nourrissent vraiment de sang ? À quoi ? Parce qu'ils viennent ils viennent piquer pour se nourrir ? C'est ça ?
Oui, c'est ça. Enfin, c'est pour. Oui, c'est ça. C'est pour le développement des larves, en fait. Donc, il y a que la femelle qui pique. Et après, c'est un élément de notre sang qui les intéresse vraiment. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux devant les moustiques. Il y en a qui se font piquer plus que d'autres. Mais après, sorti de là, je vais pas savoir répondre.
D'accord.
Plus que ça, ouais.
Est-ce qu'il y a. Est-ce que tous les moustiques sont des êtres vilains ? ou est-ce que il y a un moyen de faire une sélection ou comment est-ce qu'on peut combattre le moustique tigre sans avoir recours à des moyens chimiques ou
Ah oui,
ça.
C'est ça. Il faut gérer son jardin.
C'est le seul moyen.
Ah bah oui. Faut pas une seule petite mare d'eau stagnante. Si vous voyez des endroits avec de l'eau stagnante que vous ne pouvez pas évacuer, vous mettez du sable. Mais il faut enlever ça absolument. Le moustique tigre, il devient moustique en une semaine. La larve, elle se développe très vite, quoi. Donc voilà, en gros.
Alors, il ne se développe pas dans la mare, c'est juste à cause des autres prédateurs ?
Il se fait manger. Oui, il se fait manger, oui.
D'accord.
Donc, le récupérateur d'eau de pluie, tous les endroits où il y a de l'eau dans votre jardin, quoi. Bien vider l'arrosoir.
Alors les libellules, elles aiment bien l'eau.
Elles ont besoin, c'est leur milieu de vie. Ouais.
D'accord. Il y a d'autres animaux comme ça qui viennent d'arriver dans la mare en été, outre la libellule et puis le...
Bah, il y a tous les petits coléoptères aquatiques aussi qui se déplacent, les petites punaises aquatiques aussi. Donc là, on a les dytiques, le nocor, l'anotonecte, on a la nepe aussi, l'hydromètre. Enfin, on a tout plein d'espèces comme ça, les girins. Enfin, on en a plein, vraiment. Et ça, c'est assez passionnant. Hein, on peut... Et puis aussi, en été, normalement, c'est plutôt au printemps, mais l'été, c'est toujours un peu le cas. On a un boom de plancton. Un boom planctonique avec une explosion des espèces de phytoplancton, zooplancton. Et ça, c'est la base de la chaîne alimentaire aussi, de la pyramide alimentaire en tout cas pour la mare. Donc tout se met en place, l'équilibre physico-chimique de l'eau se met en place aussi à ce moment-là. C'est pour ça que souvent il y a des algues filamenteuses aussi.
Et que l'eau est verte ?
L'eau peut avoir une couleur verte, effectivement. Mmh. Ouais. Et puis, le fait que l'eau se réchauffe, il va y avoir plus de nutriments et moins d'oxygène. Donc les plantes vont pouvoir compenser ça en faisant leur photosynthèse et redistribuer l'oxygène pour les organismes qui fonctionnent dans l'eau, quoi.
D'accord, donc une mare en bonne santé, c'est une mare sans moustiques et une mare avec un peu d'algues dedans.
Oui.
En gros, c'est ça.
Bah voilà, c'est ça. Après, tout ça, c'est que des déséquilibres et qui se réajustent et qui se redéséquilibrent après. La mare, elle est constamment en mouvement. Tout le temps, il y a des variations du niveau d'eau. Là, l'été arrivant, le niveau d'eau va baisser. Et puis, ça évolue tout le temps, en fait.
Ah bah justement, avec le réchauffement climatique, je me posais la question, l'été arrive, il commence à faire de plus en plus chaud, surtout chez nous, on a vu l'année dernière que ça a quand même bien, bien, bien tapé. Est-ce que l'été est une saison cruciale pour la survie des habitants de la mare ?
Les habitants de la mare, ils vont survivre même s'il n'y a plus d'eau dans la mare, parce que les organismes, ils sont parfaitement adaptés, donc ils peuvent se mettre en pause dans la vase, par exemple... La croissance s'accélère à mesure que l'eau se réchauffe. Donc tout ça, c'est parfaitement... ça marche, quoi.
Peu importe la température de l'eau, par exemple.
Ah bah oui, oui. Si la température chauffe rapidement... Enfin, non, bien sûr, c'est tout à fait adapté. Chose que, par exemple, on n'a pas dans une rivière. Dans une rivière, il faut une température constante, un niveau d'eau constant. Normalement, tout est fait pour que ça fonctionne comme ça depuis des milliards d'années, quoi. Maintenant, la mare, c'est plus fluctuant et les organismes, ils sont habitués, quoi. Très vite, il y a beaucoup d'organismes qui vivent dans l'eau, mais qui sont malgré tout des insectes volants et qui vont se déplacer d'un point d'eau à un autre. Donc si la mare est à sec, ils se déplaceront, quoi. C'est pareil pour les amphibiens, ils se déplaceront dans une autre mare. Après, ce qui est problématique avec le réchauffement climatique, c'est que on va avoir... plus de sécheresse et répétée, en fait. Une mare, elle va survivre sur un été très sec, et puis l'été d'après, il sera moins sec, et voilà. Mais les sécheresses répétées, ça, c'est très dangereux, par contre, pour les espèces.
Alors, on avait suggéré aux auditeurs, la dernière fois, de creuser un petit haricot de 3 mètres sur 80 cm de profondeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, si on décide de se faire un petit haricot dans le jardin ? Ce qui est rigolo, faire un haricot dans le jardin. Et pour le protéger de canicule et d'assèchement même, je veux dire...
Ce qu'il faut faire... Alors déjà, il y a des fausses bonnes idées qui consisteraient, par exemple, à remplir la mare avec de l'eau du réseau. L'eau de robinet ou du tuyau d'arrosage, c'est vraiment pas terrible de faire ça, mais j'en avais déjà parlé, il me semble. Si on a un petit ruisseau à côté, essayer de connecter la mare au ruisseau.
Ça, on a le droit de le faire ?
Non, la loi l'interdit et c'est vraiment pas une bonne idée, vraiment pas. Donc on essaye d'avoir bien une mare toute seule, quoi. Maintenant, il faut savoir que si elle s'assèche, bah, ça fait pas joli dans le jardin, mais ça fait partie de... Bah, c'est comme ça, quoi, voilà. Et sinon, pour protéger vraiment la mare de la chaleur, de l'évaporation et tout ça, on peut viser de l'ombrage. Donc, on peut mettre des plantes qui vont couvrir la surface de l'eau, par exemple le pot-à-mot nageant, par exemple...
Un nénuphar ?
Le nénuphar, voilà, tout à fait. Ça va protéger l'eau de la chaleur, en fait. Enfin, les rayons du soleil de taper trop, voilà. Vous pouvez aussi planter... alors là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention avec les feuilles qui vont combler très vite la mare, mais vous pouvez planter des arbres, quelque chose qui va couvrir, en fait, qui va ombrer la mare. Pensez à des végétaux, voilà. Et puis, une mare en plein soleil, c'est pas très bon, en fait. Au mieux qu'elle soit mi-ombre, en fait, voilà. Et qu'est-ce que je conseillerais d'autre ?
Et en tout cas, surtout pas mettre dedans, quoi.
Non. C'est pas une bonne
idée. Il vaut mieux la laisser s'assécher.
Ouais, après, s'il y a une réserve d'eau de pluie qui sert à rien... allez, pourquoi pas mettre de l'eau de pluie, quoi. Mais en tout cas, de l'eau du réseau, non. C'est un contresens, quoi, vraiment.
D'accord. Mm. Bon, merci beaucoup, Anouk.
Eh bien, c'était un plaisir.
Eh bien, on se retrouvera quelque part au début de l'automne pour de nouvelles observations.